H.G. Wells, Le pays des aveugles. À plus de 300 milles du Chimborazo, à une centaine de milles des neiges du Cotopaxi, dans la région la plus déserte des Andes équatoriales, s'étend une mystérieuse vallée, le pays des aveugles. Il y a fort longtemps, cette vallée était suffisamment accessible pour qu'on pût, après avoir franchi d'effroyables gorges et un glacier périlleux, parvenir jusqu'à ses pâturages. Et en effet, quelques familles de métis péruviens s'y étaient réfugiées, fuyant la cruauté et la tyrannie de leurs maîtres espagnols. Puis était venue la stupéfiante éruption du Mindobamba, qui, pendant 17 jours, plongea Quito dans les ténèbres. Les sources bouillaient à Yaguachi, et sur les rivières jusqu'à Guayaquil, les poissons morts flottaient. Partout, sur le versant du Pacifique, il y eut des avalanches, des éboulements énormes, des dégels subis et des inondations. L'antique crête montagneuse de l'Arauca glissa et s'écroula avec un bruit de tonnerre, élevant à jamais une infranchissable barrière entre le pays des aveugles et le reste des hommes. Au moment où se produisit ce bouleversement, un des premiers colons de la vallée était parti pour une importante mission. N'ayant pu retrouver aucun passage, il lui fallut, par force, oublier sa femme, son fils, ses amis et tous les biens qu'il avait laissés dans la montagne. Il recommença une existence nouvelle dans le monde de la plaine, mais la maladie et la cécité l'accablèrent, et pour se débarrasser de lui, on l'envoya mourir dans les mines. Pourquoi avait-il quitté cette retraite où il avait été transporté tout enfant, attaché à un ballot de harde sur le dos d'un lama? L'histoire qu'il raconta pour expliquer son voyage fut l'origine d'une légende qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours au long de la cordillère des Andes. La vallée, prétendait-il, jouissait d'un climat égal et contenait tout ce que pouvait désirer le cœur de l'homme. De l'eau douce, des pâturages, des pentes de riches terres brunes garnies d'arbrisseaux à fruits excellents. D'un côté grimpaient de vastes forêts de pins qui retenaient les avalanches, et partout ailleurs la vallée était bornée par de hautes murailles de roches gris-vert surmontées d'un faîtage de glace. Les eaux de la fonte des neiges ne venaient pas jusque-là, mais se déversaient ailleurs par de lointaines déclivités. Parfois, cependant, à de très longs intervalles, d'énormes masses se détachaient du glacier et dégringolaient vers la vallée sans y atteindre. Jamais il n'y pleuvait ni neigeait. Seules d'abondantes sources, dont les canaux d'irrigation conduisaient les eaux en tous sens, arrosaient les gras pâturages. Le bétail se multipliait, les colons prospéraient vraiment. Mais un souci gâtait leur bonheur. Une étrange calamité s'était abattue sur eux, qui rendait aveugles tous les enfants qui leur naissaient et même la plupart de ceux qu'ils avaient amenés avec eux. C'était pour chercher un charme, un remède contre ce fléau, que lui avait affronté les fatigues, les difficultés et les dangers de la descente des gorges. En ce temps-là, les hommes ne savaient pas qu'il existe des germes morbides et des infections contagieuses. Ils croyaient que leur mal était le châtiment de leurs péchés. Selon le naïf envoyé, la cécité les affligeait parce que les premiers immigrants, arrivés sans prêtre, avaient négligé d'élever un autel à la divinité en prenant possession de la vallée. Aussi en voulaient-ils un superbe, efficace et ne coûtant pas trop cher pour l'ériger dans leurs prairies. Il lui fallait aussi des reliques et tels autres puissants symboles de foi, des médailles mystérieuses et des prières. Dans son bissac, il avait, pour acheter le saint remède contre le mal, une barre d'argent vierge dont il refusa d'abord d'expliquer la provenance. Avec l'obstination d'un menteur inexpérimenté, il affirmait que ce métal n'existait pas dans leur vallée. Poussé à bout, il déclara contre l'évidence que les habitants avaient fait fondre toutes les monnaies et tous les objets en argent qu'ils possédaient. Car, disait-il, nous n'avons aucun besoin là-haut de métaux précieux. On se représente le montagnard au regard déjà obscurci, brûlé de soleil, inquiet et dégingandé, tournant fiévreusement sa coiffure entre ses doigts, étranger aux us et coutumes d'en bas, et narrant son histoire, avant le cataclysme, à quelques prêtres attentifs et curieux. On se le figure cherchant bientôt à regagner son pays, muni de pieuses et infaillibles panacées, et contemplant avec une détresse infinie le chaos de rochers amoncelés à l'endroit où débouchaient auparavant les gorges. On ne sait rien de plus de ses infortunes, sinon sa mort ignominieuse au bout de quelques années, épave infortunée d'un Éden inaccessible. Le torrent qui jadis coulait à ciel ouvert s'échappait dorénavant par l'ouverture d'une caverne rocheuse, et les dires maladroits du pauvre égaré donnèrent lieu à cette légende d'une race d'aveugles existant quelque part, là-haut. Légende qui, récemment, s'est vérifiée d'une façon presque miraculeuse. Parmi la population de cette vallée close et oubliée, la maladie, paraît-il, suivit son cours implacable. La vue des vieux s'affaiblit à tel point qu'ils allèrent à tâtons, celle des jeunes fut confuse et basse, et les enfants qui naquirent ne virent pas du tout. Mais la vie était facile dans ce solitaire bassin bordé de neige, sans épines ni bruyères, sans insectes venimeux ni bêtes mauvaises, avec les lamas doux et paisibles que les premiers habitants avaient accompagnés, poussés et traînés par les lits des torrents et le fond des gorges jusqu'à l'inabordable refuge. C'est par degrés imperceptibles que ceux qui voyaient étaient devenus aveugles, de sorte qu'ils se rendaient à peine compte de leur infortune. Ils servaient de guide aux enfants sans regard, qui connurent ainsi merveilleusement la vallée entière, et lorsqu'à la fin toute vue eut disparu d'entre eux, la race n'en dura pas moins. Ils eurent le temps de s'adapter à l'usage du feu, qu'ils entretenaient soigneusement dans des poêles de pierre. Au début, les habitants de la vallée avaient été des gens simples, illettrés, à peine influencés par la civilisation espagnole, mais conservant quelque chose des traditions d'art de l'antique Pérou et de sa philosophie immémoriale. Puis les générations succédèrent aux générations. Ils oublièrent maintes habitudes et en inventèrent de nouvelles. La notion du monde plus grand dont ils étaient issus ne fut plus qu'un mythe incertain. En toute chose, hors la vue, ils étaient forts et capables. Bientôt se révéla parmi eux un homme à l'esprit original, possédant le don de l'éloquence et de la persuasion. Puis il y en eut un second, qui trépassa comme le premier, mais après eux, il laissait une influence durable. La petite communauté s'accrut en nombre et en intelligence, débattant et résolvant ses problèmes économiques et sociaux, et un temps vint où commença la 15e génération, à compter de l'ancêtre qui était parti vers les pays d'en bas avec une barre d'argent pour chercher le secours de Dieu et n'était jamais revenu. C'est à la même époque qu'un mortel, arrivant du monde extérieur, tomba inopinément dans la contrée close, et nous allons rapporter ici ses aventures. C'était un montagnard des environs de Quito. Il avait vu du pays, étant descendu parfois jusqu'à la mer. Il lisait des livres dont il tirait profit et passait pour un homme perspicace et entreprenant. Des Anglais, venus faire l'ascension de certains pics des Andes, l'engagèrent pour remplacer un de leurs trois guides suisses tombés malades. Après avoir réussi diverses ascensions assez périlleuses, ils se décidèrent à tenter enfin celle du Parascotopetle, au cours de laquelle le guide indigène disparut. On a relaté cet accident une douzaine de fois par écrit, et le meilleur récit est celui qu'en a fait Pointer. Il raconte comment les alpinistes, après une montée périlleuse et presque verticale, parvinrent au bord même du dernier et du plus profond précipice, comment ils édifièrent pour la nuit un abri dans la neige sur un épaulement du rocher, et enfin il rapporte, avec une réelle puissance dramatique, comment ils s'aperçurent soudain que Nunez n'était plus là, comment ils appelèrent sans obtenir de réponse et s'époumonèrent à crier et à siffler sans plus fermer l'œil le reste de la nuit. À l'aube, ils découvrirent les traces de sa chute et comprirent pourquoi il n'avait pu répondre à leurs appels. Il avait glissé du côté est, sur le versant inconnu de la montagne, dévalant une pente rapide couverte de neige dans laquelle son corps avait creusé un large sillon et déterminé une avalanche. Sa trace allait se perdre ainsi au bord d'un effroyable précipice, par-delà lequel on ne distinguait plus rien. Au-dessous d'eux, tout à fait en bas, ils entrevirent, confus dans le lointain brumeux, des arbres dont les sommets émergeaient d'une vallée étroite et encaissée, le pays des aveugles. Mais ils ne savaient pas que c'était là cette contrée légendaire, qu'aucun trait particulier ne signalait d'ailleurs à l'attention. Découragés par ce malheur, ils abandonnèrent dans l'après-midi leur ascension et Pointer dut rejoindre son poste avant d'avoir pu renouveler sa tentative. Aujourd'hui encore, le Parascotopetl dresse vers le ciel sa tête inconquise et l'abri édifié par Pointer et ses compagnons tombe en ruine parmi les neiges sans donner asile à d'autres visiteurs. Le montagnard survécut. Après avoir trébuché sur le rebord, il avait fait une chute de 1000 pieds et, au milieu d'un nuage de neige, il avait glissé au long d'une pente abrupte, tourbillonnant, étourdi et insensible, mais sans un os rompu. De chute en chute, il parvint à des déclivités plus douces où il s'arrêta enfin, enfoui dans l'amas de neige qui l'avait accompagné et sauvé. Quand il reprit ses sens, il s'imagina vaguement qu'il était couché dans son lit et malade. Puis, avec son expérience de la montagne, il se rendit compte de sa situation. Avec des pauses pour reprendre haleine, il se dégagea de sa tutélaire prison et bientôt il aperçut les étoiles. Il demeura quelque temps à plat ventre, se demandant en quel coin de terre il se trouvait et par quelle suite de circonstances il y était transporté. Poursuivant ses recherches, il se palpa les membres, constata que sa veste, dont plusieurs boutons avaient été arrachés, était rabattue sur son cou et sa tête. La poche dans laquelle il mettait son couteau était vide et son chapeau avait disparu, bien qu'il eût la précaution de se l'attacher sous le menton. Il se rappela qu'en dernier lieu, il cherchait des pierres pour surélever le mur de leur abri. Il avait perdu son pic aussi. De tout cela, il conclut qu'il avait dû tomber et, levant la tête, il considéra, dans la blême lumière de la lune naissante qu'il exagérait, la distance qu'il avait parcourue. Les yeux agrandis, il contemplait l'immense et pâle falaise qui, d'instant en instant, projetait davantage hors des ténèbres sa masse surplombante, dont la beauté fantastique et mystérieuse lui serra le cœur. Il fut secoué d'un accès de sanglots et de rire. Un long espace de temps s'écoula ainsi. Puis il remarqua qu'il s'était arrêté à la limite des neiges. Au-dessous de lui, à l'extrémité d'une pente praticable et baignée par la clarté de la lune, il discerna des intervalles sombres qui devaient être des surfaces gazonnées. Malgré ses membres endoloris et ses jointures ankylosées, il réussit à se mettre sur pied, se laissa péniblement glisser au bas du tas de neige où il était juché et se mit à dévaler jusqu'à ce qu'il fût sur le gazon. Arrivé là, il s'effondra auprès d'une roche, vida à longs traits le flacon qu'il tira de la poche intérieure de son gilet et s'endormit presque aussitôt.